en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, je vous remercie donc vivement de me faire l'honneur de m'inviter dans cette institution prestigieuse qu'est l'Académie des sciences morales et politiques, et de contribuer à nourrir la réflexion sur le thème de la religion. Madame la Présidente m'a proposé d'interroger une problématique qui n'est pas des plus aisées. C'est un véritable défi en soi que de mettre à l'épreuve, tel est le titre, les défis de la théologie politique, je précise en contexte chrétien, et je précise encore dans la modernité, et d'ailleurs j'ajouterai dans l'ultra-modernité. Ce défi est en réalité double, en ce qu'il concerne autant la modernité classique et présente que le christianisme lui-même. Au centre de ce double défi, je voudrais développer deux thèses. La première, tout d'abord. La théologie politique chrétienne est le fruit d'une formation historique, conséquence de son statut de religio à partir du IVe siècle. Il en a résulté un rapport ambivalent du christianisme à la religion, et j'ajouterais même avec le sacré, qui en résulte. De même, la théologie chrétienne a nourri un rapport tout aussi ambivalent avec la philosophie politique. Ce sont ces deux rapports ambivalents qui ont joué un rôle déterminant dans la genèse de la politique moderne et de la démocratie. Si le critère de l'ambivalence est pertinent, il renvoie dos à dos aussi bien les positions théologico-politiques réactionnaires ou contre-révolutionnaires et inversement révolutionnaires que celles en France de la laïcité classique. Devient dès lors possible de penser une théologie du politique, comme dépassement des anciennes théologies politiques et du modèle libéral classique, je dis bien classique, de séparation de la religion, Église ici, et du politique, État, pour répondre aux défis du temps présent. Ce sera ma deuxième thèse. N'y a-t-il pas, du moins en France, un avant et un après le 7 janvier 2015 ? Et on pourrait convoquer même jusqu'aux événements de Creil en 1989, dans la relation entre État, société et religion. Tournant pour lequel le christianisme est, pour des raisons liées à son identification avec l'histoire européenne, particulièrement préparé pour proposer un autre paradigme, un autre modèle à cette relation. Afin de répondre à cette question centrale, il convient pour commencer d'examiner le statut spécifique de la théologie politique dans le contexte chrétien. C'est donc à cela que je voudrais en venir pour commencer. L'expression sui generis, au fond, de théologie politique en contexte chrétien, appelle deux explications. D'une part, elle n'a jamais, dans les faits, été utilisée en tant que telle par aucun théologien jusqu'au XXe siècle. D'autre part, elle ne peut faire l'objet d'aucune déclinaison au singulier. L'histoire européenne permet au contraire de vérifier que sa déclinaison est foncièrement plurielle. Tout d'abord, l'absence de mention explicite de théologie politique chrétienne repose sur la signification immédiatement eschatologique du christianisme primitif, les premiers chrétiens étant convaincus de l'attente imminente du royaume de Dieu. Le rapport qu'ils entretiennent avec le pouvoir impérial romain est soit apocalyptique, voire évidemment le livre de l'Apocalypse, soit beaucoup plus attentif à la réalité de ce pouvoir. La communauté chrétienne de Rome, et à cette époque-là à Rome on le comprend, en témoigne très clairement dans sa célèbre épître lorsque l'apôtre Paul en appelle à une attitude loyaliste à l'égard de l'autorité impériale. À la lumière de ces deux approches, on notera que dès son commencement, le christianisme est loin d'être univoque dans son rapport au pouvoir temporel. Mais ces deux approches n'en indiquent pas moins l'inexistence d'une théologie politique qui pourrait ressembler à son statut pré-chrétien, et ici je pense, bien sûr, dans la Cité de Dieu, dans Augustin, bien sûr, à sa critique de la Theologia Civilis de Varron. Ce qui importe est que l'organisation des communautés chrétiennes soit réglée sur le critère de l'attente de la venue définitive du règne du Christ. Au travers des vicissitudes de l'histoire, ce pragmatisme, disons, demeurera topique. En témoigne, d'un côté, le souci de régler le rapport à l'ordre temporel, l'épître aux Romains, une fois encore, et de l'autre, les mouvements spirituels de protestation au cours des siècles de chrétienté, les millénarismes se nourrissant bien souvent d'une interprétation de l'Apocalypse. La deuxième explication de l'absence de toute mention explicite de l'expression de théologie politique chrétienne est sa formulation plurielle de fait. Il faut ici faire appel à l'histoire des événements. D'ailleurs en particulier, qui ont imposé aux différentes formations ecclésiales de disposer d'un discours ad hoc par rapport à la structuration de nouvelles entités temporelles politiques, ou bien encore formées sur l'héritage de l'Empire romain. Mais ces événements soulignent une donnée nouvelle, capitale pour l'histoire de la civilisation européenne, occidentale et orientale, à savoir que d'immédiatement eschatologique, le christianisme l'est devenu médiatement. L'attente messianique du royaume de Dieu a dû en passer par l'installation du christianisme dans l'histoire. Et dans l'histoire signifie simultanément la nécessité d'embrasser la condition politique. L'un allant inévitablement avec l'autre, le christianisme, et donc les églises, quand on assurait la médiation temporelle historique, se devaient de disposer des instruments théoriques, c'est-à-dire théologico-politiques, lui permettant d'imprégner l'espace-temps de la condition humaine ici-bas. Le IVe siècle constitue le moment fondateur de cette mutation. Le christianisme étant passé du statut de superstitio à celui de religio, c'est-à-dire d'une situation de non-droit à une situation de droit, ne pouvait que recueillir, tout en la subvertissant, l'antique religion romaine. Recueillir et subvertir a ici une double signification. D'une part, reprendre de la religion romaine ce qu'elle avait de politique ou de civil. D'autre part, intégrer l'usage linguistique du mot « religio » dans le contexte de la formation du corpus doctrinal chrétien. À partir du IVe siècle, le christianisme s'est dès lors engagé dans une trajectoire théologico-politique par nécessité historique. Dans l'Occident latin, il convient de faire observer qu'Augustin, j'y faisais allusion il y a quelques instants, n'a jamais recouru à l'expression théologie politique, du moins si l'on reste fidèle, bien sûr, au latin qui est sa propre langue, au fond, d'usage. S'il s'était exprimé en grec, sans doute qu'il aurait utilisé évidemment l'expression de théologie politique. Mais il s'agit de Theologia Civilis, dont on a vu qu'il en faisait la critique. Et dans les siècles qui suivent, ni les théologiens, ni les juristes et les canonistes n'en firent usage. C'est pourtant dans la réalité vécue de théologie politique dont il était question, mais selon des paradigmes à chaque fois bien spécifiques, redéfinissant le statut de la médiation ecclésiale. On songera ici en particulier, par exemple, aux multiples réformes protestantes qui ont évidemment reconsidéré ce qu'on appelle une médiation, la médiation chrétienne, notamment comme médiation de l'institution ecclésiale. Topique à cet égard est la rencontre du christianisme aussi avec la philosophie grecque dans le champ de la réflexion politique. Je pense tout spécialement à la réception de la pensée d'Aristote au XIIIe et XIVe siècle, en particulier évidemment à Thomas d'Aquin et aussi à Marcille de Padoue, qui sont au fond deux modalités très spécifiques de réception chrétienne et d'interprétation de la pensée d'Aristote, et pour des motifs évidemment bien différents, l'un étant théologien et l'autre philosophe. Les deux rencontres du christianisme avec la romanité et avec l'hellénisme ont donc joué un rôle déterminant dans le besoin d'une théologie politique, tant au plan du droit que de la philosophie, même si, une fois encore, le syntagme théologie politique n'a jamais été utilisé en tant que tel. Ces deux rencontres sont décisives, car elles permettent d'exhumer, dans le long terme, une interprétation théologico-politique de la modernité séculière et démocratique. Je ne peux ici apporter une analyse bien sûr précise. Ce qu'il faut retenir est que la constitution de modèles théologico-politiques, que ce soit, si on prend celui de la réforme grégorienne ou celui de la réforme protestante ou de Byzance, est la conséquence de plusieurs ambivalences. Celle de la foi avec la religio, celle de la théologie avec la philosophie politique et celle institutionnelle du spirituel, donc de l'Église et du temporel, le politique. Toutes ces ambivalences indiquent que la foi chrétienne, en vertu de la logique de l'incarnation, repose sur une révélation qui a introduit une dualité, plus concrètement des médiations, médiations qui ont généré en retour des contestations. Telle fut la tâche des philosophies politiques depuis celle de Hobbes jusqu'à celle de Hegel. Pour ces philosophes politiques, penser à la souveraineté, c'est-à-dire l'autonomie du politique, ne pouvait qu'aboutir à disqualifier ces ambivalences et à rapatrier la médiation de l'Église du côté de l'État. Mais cette autonomie est paradoxale, car elle n'a pas été sans faire migrer le discours théologique sur la puissance de Dieu vers des concepts modernes que sont notamment ceux d'État et de souveraineté. On pensera bien sûr à Jean Bodin, et on pensera aussi à Thomas Hobbes, et incontournablement. Les défis de la théologie politique dans la modernité sont donc à comprendre comme des défis d'abord adressés par le christianisme à la constitution d'une sphère politique autonome et les défis que celle-ci lui a lancés en retour. Pour se constituer comme sphère autonome, il lui fallait renoncer, une fois encore de Hobbes à Hegel, à légitimer la dualité du spirituel et du temporel. In fine, la séparation libérale l'a emporté en sorte que l'un et l'autre jouissent de leur propre liberté pour satisfaire à leurs deux finalités spécifiques. Mais ce renoncement indique simultanément qu'il est impossible de rendre compte en profondeur de l'avènement de la démocratie libérale en faisant l'impasse sur le serpent de mer théologico-politique chrétien. Théologie politique chrétienne et démocratie libérale sont le miroir inversé l'un de l'autre. C'est ce miroir inversé qui a pourtant été ignoré au XIXe et XXe siècle. Et j'en viens ici à mon deuxième point sur la théologie politique au XIXe et XXe siècle aux prises avec la modernité démocrate libérale. Le temps, là aussi, ne me permet pas de développer comment a été reclassé dans le champ de la philosophie politique le problème théologico-politique chrétien, en particulier chez Hobbes, Spinoza et Hegel. Je voudrais simplement attirer l'attention sur le fait que ces trois philosophes ont joué sans doute le rôle le plus décisif dans la dissolution de la théologie politique chrétienne, je pense tout spécialement à la neutralisation de l'Église comme pouvoir spirituel par l'État moderne. Et ici, je ne résiste pas à mentionner l'ouvrage du professeur Lucien Jaume qui me fait l'honneur de sa présence, et je pense à son dernier livre, « Le religieux et le politique dans la Révolution française, l'idée de régénération », et en particulier, évidemment, à la constitution civile du clergé, qui est un exemple topique du genre que là, on a une vérification historique de problématiques philosophiques. Il est en revanche important de faire observer que c'est par rapport à ces corpus philosophiques que le syntagme « théologie politique » apparaît explicitement. Ce qui revient à dire que la théologie politique, exprimée comme telle, est le fruit d'une problématique paradoxalement moderne, en ce sens qu'elle s'est érigée en réponse antimoderne par l'adoption de critères de pensée plus modernes qu'ils sont véritablement traditionnels. C'est ainsi qu'une science nouvelle, la sociologie, a une dette certaine à son égard. On ne peut que penser ici à la pensée contre-révolutionnaire et notamment à celle de Bonald au début du XIXe siècle. À la légitimation séculière et démocratique de la politique moderne, il fallait apporter une réponse entre guillemets traditionnaliste, disons, et antidémocratique. Ce n'est pas tant dans cette configuration post-révolutionnaire, le prisme grec d'ailleurs de la théologie, qui est à mon sens assez pauvre ou très limité même dans la pensée contre-révolutionnaire, mais plutôt le prisme qui domine, c'est celui de la religion, donc de la romanité, la religio, et dès lors de la hiérarchie, qui prime donc comme instrument théorique de lutte contre la philosophie politique moderne et son idéal démocratique égalitaire. Et évidemment, on pensera tout spécialement à Rousseau, que je ne résiste pas non plus au moins à citer une phrase qui est assez intéressante, que lorsque Rousseau dit dans le Contrat social, « S'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. » Je vous renvoie au livre 3, je crois, et au chapitre 4 de ce livre du Contrat social. Ce moment est capital car il est au commencement d'une nouvelle pluralité d'expression de la théologie politique chrétienne jusqu'à nos jours. Pluralité d'expression qui témoigne du malaise du christianisme et sans doute plus encore du catholicisme français face à la montée en puissance de la modernité libérale et démocratique au XIXe et premier XXe siècle, évidemment à nouveau Bonald, mais aussi Joseph de Maistre et Donoso Cortés en Espagne. Malaise qui se déplace bien beaucoup plus tard, qui se déplace à gauche dans les années 1970 pour contester la privatisation de la foi sous le régime de la démocratie libérale bourgeoise. Je pense à Jean-Baptiste Metz et à Jürgen Moltmann. On doit à ces deux théologiens, catholiques et protestants, d'avoir tenté d'élaborer ce qu'ils ont appelé, notamment Metz, une nouvelle théologie politique. Mais ils n'en sont pas, en réalité, les initiateurs. Le premier d'entre tous provient d'un horizon intellectuel inattendu et en même temps bien sûr très critique, puisqu'il s'agit de l'anarchiste russe Mikhaïl Bakounine, contre lequel le juriste Carl Schmitt pense sa propre théologie politique, disons en deux temps pour faire très bref, celle de 1922 bien sûr, qui est la première contre laquelle il est, bon, l'ennemi est véritablement Bakounine et sa pensée anarchiste, et en 1970 donc une deuxième théologie politique qui est une réponse en fait aux thèses d'Eric Peterson, qui est déjà décédé à ce moment-là depuis 10 ans d'ailleurs. Théologie politique qui fait elle-même donc d'une réfutation radicale, je viens de le dire, par le théologien Eric Peterson dans son traité de 1935, dont je rappelle ici le titre, Le monothéisme comme problème politique. C'est un ouvrage qu'il avait écrit contre la légitimation du régime nazi par des procédures, disons, des raisonnements de type théologico-politique. Avec l'essor des théologies politiques de droite et de gauche, on peut dire que la rupture avec la démocratie, la modernité démocrate libérale est confirmée. Alors, est-ce à dire qu'il y aurait une incompatibilité fatale entre ces deux régimes de pensée? Cette apparente incompatibilité n'est-elle pourtant pas contradictoire avec l'affirmation selon laquelle théologie politique chrétienne et démocratie libérale sont le miroir inversé l'une de l'autre? D'où la nécessité de disposer de critères interprétatifs permettant d'élucider la genèse théologico-politique de l'État moderne et de la démocratie. C'est ce que, brièvement, j'ai tenté de faire par le critère de l'ambivalence, en particulier ambivalence entre foi et religion, ambivalence théologie, philosophie politique, ambivalence spirituelle et temporelle, et j'ajouterai le concept si central dans le christianisme de médiation. La thèse que je défends prend donc le contre-pied de l'idée selon laquelle le christianisme aurait partie liée avec la sacralisation du pouvoir politique. Cette interprétation, à mon sens, ne résiste pas à l'examen, car elle méconnaît notamment le rapport, encore une fois ambivalent, du christianisme avec la religion et le sacré qui l'accompagne. Elle est, faut-il s'en étonner, partagée aussi bien par les tenants d'une pensée, les tenants d'une contre-société chrétienne, que par leurs adversaires laïcs. Elle conduit dès lors à une impasse, et ce faisant, n'ouvre aucun chemin nouveau pour un autre paradigme de la séparation entre État et Église, et plus largement entre politique et religion. Elle n'ouvre pas non plus un chemin pour l'affirmation d'un civisme croyant. C'est ce que je voudrais maintenant tenter de proposer au moyen d'une théologie du politique, comme j'avais annoncé dans mon introduction, une théologie du politique dans et pour la démocratie. Ce sera donc mon troisième et dernier point. Cet autre paradigme de la séparation de l'État et de l'Église, qu'une théologie du politique est à même de proposer, doit prendre en considération la relation dialectique entre l'État et la société. Autrement dit, le rapport bipolaire Église-État appartient au passé depuis suffisamment longtemps pour se détourner de ce modèle théologico-politique. Une théologie du politique doit au contraire s'articuler autour d'un schéma triangulaire État-Société-Église. C'est au sein de ce schéma triangulaire que se trouve le nouvel enjeu théologico-politique, le nouveau nœud à dénouer, pourrait-on dire. Il ne faut donc plus partir du haut, des deux grandeurs institutionnelles que sont l'État et l'Église, mais du bas, c'est-à-dire du citoyen croyant de la démocratie libérale. Mais invoquer et convoquer le citoyen, cette notion pivot de toute démocratie, en l'articulant à celle du croyant, revient à réunir une double appartenance au sein d'une même conscience individuelle. Et ici, d'ailleurs, en vous disant cela, je pensais, en me relisant, à une des conférences de Hannah Arendt dans « Crise de la culture », celle sur le concept d'histoire, dans lequel, en opposition à sa critique de la religion séculière, qu'elle avait faite, d'ailleurs, dans un débat avec Raymond Aron, d'ailleurs, en 1945, je crois que c'était à New York, une conférence qui a titré « Religion and Politics », et Hannah Arendt s'opposait à cette expression, ce syntagme de religion politique, pour lui préférer celui d'idéologie, pour désigner aussi bien le nazisme que le communisme. En revanche, lorsqu'elle écrit ses conférences en crise de la culture, en particulier concept d'histoire, elle indique très clairement qu'elle ne voit rien de contre-indiqué, si j'ose dire, ou de contradictoire, à ce qu'il y ait des citoyens croyants. Et donc, ce que moi j'appelle un civisme croyant, ça lui paraît parfaitement légitime. Je poursuis. Elles ne sont donc, quand je parle de double appartenance, ni séparables, ni confondues, et c'est très important. Si le croyant veut être non seulement citoyen, mais civique, sa foi doit irriguer son civisme, et son civisme doit informer politiquement sa foi. Par cette communication entre ces deux pôles, le statut de croyant ne peut être au service d'intérêts communautaires ou confessionnels, tout en n'excommuniant pas non plus sa foi de tout impact politico-civique. L'originalité de ce double statut de citoyen croyant permet ainsi de régler son appartenance spirituelle. Ce réglage est par voie de conséquence doublement fécond puisqu'il ne met pas hors champ de la sphère publique démocratique le croyant et que celle-ci bénéficie de surcroît de son civisme. En ces temps de tentation d'un radicalisme religieux ou d'un repli tout aussi identitaire de la laïcité, penser un civisme croyant ne peut que servir la démocratie libérale du XXIe siècle. C'est ce statut qui appelle à penser à nouveau frais le découpage entre la sphère privée dans laquelle devrait se situer la religion et la sphère publique politique. Ce paradigme qui correspond parfaitement à la laïcité française est celui d'un modèle de séparation que je qualifie de défensif contre la religion. Indéniablement, la loi de 1905 a permis un affranchissement théologico-politique contre l'État confessionnel. Mais ce modèle est désormais daté. Ce découpage entre la sphère privée dans laquelle serait contenue la religion et la sphère publique qui serait l'apanage du politique et de la politique ne fonctionne plus. Les multiples débats sur la laïcité en apportent la démonstration, oscillant, pour dire les choses de manière très schématique, entre une laïcité classiquement républicaine et une laïcité plutôt, disons, libérale. Ils témoignent de l'incapacité de la laïcité à se redéfinir. Et cette remarque, d'ailleurs, je viens d'y faire allusion, vaut pour l'idée républicaine en tant que telle, au fond, qui en est la matrice. Les débats avec l'islam sont symptomatiques de ce nouveau défi théologico-politique, qui ne se pose plus dans les termes des 19e et début 20e siècle, c'est-à-dire l'affranchissement, une fois encore, du politique par une séparation défensive, mais il se pose, bien entendu, dans les termes du 21e, c'est-à-dire par la mise en œuvre d'une séparation que je qualifie d'inclusive. Que serait un nouveau rapport différencié? Et je n'hésite pas à faire référence aux derniers travaux de Jean-Marc Ferry, d'ailleurs, par exemple, dans un ouvrage interview, d'ailleurs, qui s'intitule, au titre sans doute un peu provocateur, mais intéressant, « Les lumières de la religion ». La mise en œuvre de ce modèle inclusif de séparation est, du côté des citoyens croyants et chrétiens ici, la tâche d'une théologie du politique. Renonçant autant à une ignorance théologique de la condition politique, ce qui signifierait que la théologie ne proposerait aucun accès au réel de cette condition, séparation défensive, qu'à toute théologie politique, à savoir la tentation, toujours plus ou moins réelle, il faut bien le dire, d'une confusion ou d'une absorption du politique par la religion, inversement, une théologie du politique offre la perspective d'une nouvelle condition de l'autonomie démocratique. Située à l'intérieur de l'histoire de la tradition chrétienne, une théologie du politique renoue donc avec l'impossibilité de toute sacralisation religieuse du politique. Elle propose par contre aux citoyens croyants des critères de jugement et d'action au sein de la sphère publique démocratique. Ces critères trouvent leur source dans les doctrines théologiques du christianisme. Elles sont de nature à développer une anthropologie chrétienne générale du politique, sans laquelle le statut de citoyen croyant serait insignifiant. Sans cette anthropologie générale, le citoyen croyant est absorbé par un pluralisme qui dissémine et neutralise toute possibilité de proposition spécifiquement chrétienne d'un jugement et d'une action dans les multiples débats que l'on appelle de nos jours sociétaux. Mais quelles sont ces doctrines théologiques qui déterminent des critères de jugement et d'action? Eh bien, ici, je retiendrai les plus décisives, ou presque les plus décisives, enfin, vous reconnaîtrez qu'elles sont comme les plus décisives, Trinité, Incarnation, Église, Eschatologie, Péché, Salut, faute de temps, j'ai mis de côté la Création, qui mériterait pourtant d'être explorée, si je puis dire, avec ténor, autour du rapport entre, bien entendu, l'universel et le particulier. Ces doctrines inscrivent le croyant dans un rapport au temps de l'histoire et à l'espace. Inscription qui induit de surcroît une correspondance avec la démocratie. Sur ce point, je reste allusif, j'y reviendrai après. La première d'entre elles, la doctrine trinitaire, ne se réduit pas à des représentations du monde, mais elle n'imprime pas moins une conception du temps historique qui lui-même se déploie dans l'espace missionnaire du christianisme. Évidemment, ici, il faudrait passer beaucoup de temps sur toute la conception augustinienne de l'histoire, autour des deux cités. Et même, je tiens à exprimer ici ma dette aussi à un grand penseur juif du XXe siècle, Franz Rosenzweig, sur la question du rapport à l'espace spécifique au christianisme et en quoi il se différencie du judaïsme d'ailleurs. Cette doctrine conditionne aussi un rapport à l'unité et à la pluralité qui se vérifie dans l'institution pneumatologique ou spirituelle de l'Église. Il en est de même de l'incarnation du Christ advenue au sein d'un temps et d'un espace particulier. Il convient aussi de rappeler que l'Église est universelle, catholique au sens de la catholicité, à la condition de manifester son universalité au sein de peuples, de nations et de cultures, inévitablement marquées du sceau de la particularité. En ce sens, toute ecclésiologie a une signification théologique non pour soi, mais comme sacrement du salut pour le monde. À la jointure de l'identité et de l'altérité, le fait Église en appelle à l'édification d'un monde commun, porteur d'une signification politique. S'agissant de l'eschatologie, celle-ci appartient à la métahistoire ou de l'histoire appelée à s'accomplir. Elle n'est pourtant pas une fuite hors du temps, mais au contraire, la condition de sa possibilité. Enfin, le péché est à la source d'une vision théologique de l'histoire qui en appelle à un salut dans la condition politico-historique et non pas part comme dans les philosophies de l'histoire. Il ne saurait dès lors y avoir une ignorance théologique de la faillibilité morale de l'homme et de la dimension tragique de l'histoire et par voie de conséquence des défis juridiques, éthiques et politiques que soulèvent les échecs, les injustices et la violence intrinsèque à la condition humaine. S'il y a à retenir un enseignement fondamental du christianisme, tant au plan doctrinal que dans ses conséquences pratiques, c'est qu'il n'y a d'humanité et d'universalité qu'incarnée et donc particularisée, autrement dit médiatisée. C'est sur la base de cet enseignement fondamental que le christianisme et la démocratie ont une correspondance paradoxale. Ni l'un ni l'autre ne peuvent exister hors d'un espace-temps de l'histoire. Par leur inscription spécifique dans un rapport au temps de l'histoire et à l'espace, les doctrines théologiques du christianisme offrent aux citoyens croyants des critères fondamentaux de jugement et d'action au sein de la sphère publique démocratique. Ils sont donc, dans ce sens, normatifs, car ces critères reposent sur les doctrines communes à tout chrétien. Celles-ci, comme je l'ai déjà fait valoir, induisent une anthropologie générale et une conception de la condition politique. Mais parce qu'il s'agit d'une anthropologie générale, la normativité de ces critères laisse un large espace interprétatif au sein de la sphère publique démocratique et de l'Église pour le jugement de la conscience individuelle. Celle-ci peut dès lors déterminer ses propres orientations civiques. Autrement dit, une théologie du politique dans et pour la démocratie promeut autant une éthique théologique de conviction qu'une éthique théologique de responsabilité. Pour paraphraser, vous l'aurez compris, Max Weber. Indispensable, j'ajoute, pour le croyant, et qui plus est, pour un responsable politique, s'il veut adopter, bien évidemment, une attitude civique. Dans la perspective ici proposée, une théologie du politique a autant congédié, finalement, les anciens paradigmes théologico-politiques que celui d'une séparation défensive de la religion du politique. La voie est ouverte à une séparation inclusive. Ce modèle de séparation est de nature à promouvoir un civisme croyant. La démocratie y gagnerait beaucoup. Si vous me permettez une petite conclusion, j'ai peut-être 5 minutes encore, éventuellement je vous remercie beaucoup. J'avais, disons, récapitulé les quelques idées que j'ai tenté d'exprimer. Depuis le christianisme primitif jusqu'au XXIe siècle, donc je pourrais le rappeler, la relation entre la sphère politique et l'Église a toujours été un défi, finalement. Mais il s'est formulé de manière spécifique à chaque époque. Un critère pérenne doit toutefois être retenu, celui de l'ambivalence de cette relation qui s'est traduite notamment entre la foi et la religion, entre la théologie et la philosophie, entre le spirituel et le temporel, et j'ajouterai aussi la médiation. C'est à la lumière de ces trois ambivalences que la théologie politique chrétienne s'est historiquement constituée selon des modèles ou des paradigmes spécifiques, sans jamais se nommer comme tel. C'est cette ambivalence qui était source bien souvent de conflits politico-religieux ayant déterminé la constitution de l'État moderne, puis de la démocratie sous sa forme libérale. C'est la raison pour laquelle théologie politique chrétienne et démocratie libérale sont le miroir inversé l'une de l'autre. Cette interprétation de l'histoire européenne n'a pourtant pas été retenue par aucune des théologies politiques du XIXe au XXe siècle. Leur nomination explicite comme théologie politique est la conséquence du malaise du catholicisme au sein de la modernité démocrate libérale. Pour une raison diamétralement opposée, les tenants d'une laïcité défensive ne peuvent que récuser cette interprétation. Inversement, une théologie du politique doit au contraire prendre au sérieux deux acquis historiques absolument déterminants. Celui, un, de la spécificité chrétienne de la religion, dualité du spirituel et du temporel, et celui de l'héritage libéral de la séparation. À la lumière de ces deux acquis historiques, nos démocraties, menacées par le néolibéralisme et par un vide spirituel extrême, et que je n'hésite pas à qualifier de nihilisme, doux, mais d'une douceur qui cache une violence latente, dont nous avons eu la manifestation récemment, une théologie du politique me paraît s'imposer pour relever les défis du temps présent et futur. Elle devrait avoir deux tâches corrélatives. Celle de régler la relation entre les Églises et l'État sur le registre d'un nouveau paradigme de la séparation, et c'est d'abord la tâche de l'État, à vrai dire, et à la faveur de ce nouveau réglage, de développer un civisme chrétien, ce qui est la tâche des Églises. D'où ma distinction entre une éthique théologique de conviction et une éthique théologique de responsabilité. C'est en cela rejoindre, au fond, à l'aune des défis du début du XXIe siècle, la démarche du renommé Tocqueville. Tournez-vous du côté de Lucien Jaume. Une théologie du politique ne vise pas à imposer une norme à la sphère publique démocratique, ce qui est de toute façon impossible, mais à participer à titre privé à sa délibération publique et à faire valoir ses propres arguments, y compris théologiques, sur les thèmes mettant en jeu la manière dont les hommes entendent se rapporter les uns aux autres. Dans cette perspective, la religion n'est plus excommuniée, elle est politiquement réglée. Il me semble que c'est autant la tâche du théologien que du philosophe politique d'avoir le souci de ce réglage civique par une laïcité inclusive ou une séparation inclusive. C'est le défi d'un nouveau nœud théologico-politique qu'il nous faut résoudre à l'âge de la pluralisation du religieux. Mais cette résolution ne saurait faire l'économie d'une investigation des potentialités politico-civiques de la théologie chrétienne. Sur ce point capital, et ce sera ma conclusion, ce défi est amplement facilité par une connivence insoupçonnée entre le christianisme et la démocratie, notamment s'agissant du rapport au temps et à l'espace. J'ajouterai que l'un et l'autre sont marqués aussi par le régime de l'incertitude. Je vous remercie infiniment de votre attention.
Merci pour cette belle analyse. Je donne tout de suite la parole à Jean Béchler.
Merci, Madame le Président. Je voudrais vous poser une question naïve et innocente, destinée seulement à me persuader que je vous ai bien compris, et qui porte sur votre troisième partie, qui est tout de même le cœur de votre argument. Vous partez, et je pars, du citoyen. Le citoyen est le siège de la souveraineté. Citoyen, croyant, avez-vous développé. Par implication, il y a un citoyen incroyant. Question, quelle est la différence entre les deux? Y a-t-il une discrimination, c'est-à-dire seul le croyant ou l'incroyant sont de vrais citoyens, et donc il faut éliminer l'autre? Ou bien le citoyen, c'est le genre, et le croyant et l'incroyant, c'est l'espèce, les espèces? Quelle est la différence spécifique? Est-elle du côté des croyances ou est-elle du côté du politique, du citoyen? Si c'est du côté du citoyen, c'est non pertinent. Si c'est du côté de la croyance, c'est non pertinent aussi, puisque ça n'est pas politique. Je poursuis. Je prends le croyant. Donc, citoyen, croyant, chrétien. On peut même préciser catholique. Il y a des citoyens croyants juifs, des citoyens croyants musulmans, bouddhistes, mandéens, etc., etc. La même question se pose, ces 4, 5 ou 6 croyants encore plus spécialisés, autrement dit des variétés de l'espèce, sont-ils citoyens de la même essence ou bien leur essence est-elle différenciée par leur appartenance religieuse ? Et la même question se pose, ou bien vous aboutissez à une discrimination et il faut éliminer ceux qui ne sont pas du bon côté, ou bien il faut considérer que la position est non pertinente, ce qui vous donne la laïcité au sens spécifique du terme, français du terme. Cela ne concerne pas le politique, cela relève du privé et de l'intime. Ce qui me paraît une position, disons, défendable et vers laquelle vous tendiez, mais, comment dire, de manière un peu tortueuse, peut-être. Ah, ben, je suis pas sûr. Merci.
Merci. Non, vous répondez à la fin à toutes les questions en même temps, comme ça vous les arrangez comme vous voulez. Monsieur Ménard.
Alors, j'aurais dû ne pas prendre la parole, parce qu'au fond, je suis tout à fait d'accord avec presque tout ce qui nous a été dit, et en particulier, j'ai apprécié l'évolution de notre orateur. Je dirais que je suis plus à l'aise avec lui à la fin qu'au commencement. Cela dit, il me semble que ce n'est pas sans quelques raisons que j'ai toujours pressenti une difformité, en somme, dans l'expression théologie politique. Il me semble que c'est une expression non viable, parce que le théologique et le politique se contredisent. Je dirais tout simplement parce que c'est le béaba de toute réflexion théologique sur la politique. La religion est affaire d'autorité, tandis que le politique est affaire de liberté, si l'on veut. Ou en tout cas, est l'affaire de choix. Et vous avez terminé en constatant une certaine équivalence entre la démocratie libérale d'aujourd'hui et le christianisme, mais il y a eu une certaine époque où l'on choisit de trouver une égalité parfaite entre le christianisme et la monarchie. Et on pouvait raisonner exactement de la même façon. Je dirais que d'un côté comme de l'autre, il y avait erreur de méthode, il y avait erreur une démarche insuffisante. Si bien que il y a une autre difficulté que je soulèverai, mais elle était présente dans votre exposé, c'est que on parle de théologie politique. Le mot n'est pas tellement court. Enfin, le mot est très fréquemment employé aujourd'hui. Et justement, c'est un reproche que je fais. Je vous fais le reproche d'avoir trop suivi cette habitude mon contemporaine. Alors que c'est un mot ancien quand même. Oui, il faut remonter à Spinoza, dont vous n'avez pas parlé. Alors, cela dit, la théologie politique ne peut pas être la même chose que la théologie du politique. C'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Parce que l'expression théologie politique est forgée sur l'expression philosophie politique. Je dirais la philosophie politique, ça existe, parce que les deux changent en même temps. Les deux évoluent en même temps. Celui qui change de philosophie change de politique, change de politique et inversement. On ne peut pas concilier n'importe quelle politique avec n'importe quelle philosophie. Donc là, nous sommes sur un terrain viable, sur un terrain solide. Tandis qu'avec théologie politique, nous ne sommes pas sur un terrain solide. Et là, vous en étiez tellement convaincu que vous avez éliminé finalement cette expression. Mais je crains que cette expression ne soit de plus en plus destinée à régner. Et le problème, au fond, le théologien devant la politique, il devient philosophe. Il reste philosophe. Il peut utiliser les données de la révélation pour parler de la politique. Il doit même le faire. Mais il le fait selon des règles, je dirais, scientifiques, et pas du tout théologiques. Voilà, je m'en tiendrai là.
Merci, monsieur. Rémi Brague.
Merci, madame la présidente. Ma question se déplace un petit peu dans le sillage de celle de mon voisin, même si elle se place d'un autre point de vue. Je vous remercie, mon père, d'avoir cité un certain nombre de points forts de la théologie chrétienne qui s'articulent à chacun à sa façon sur le problème de la relation entre le politique et le théologique. Je regrette vraiment que vous n'ayez pas parlé de la notion de création, parce que je me demande si ce n'est pas là que l'on peut trouver quelque chose de particulièrement intéressant et de spécifique, je ne dirais pas au christianisme, mais aux deux religions bibliques. En ce sens que nous avons dans le testament qui nous est commun avec nos frères aînés la notion d'une création qui précède toute alliance. Enfin, en d'autres termes, et pour le dire avec des noms propres, Adam vient et Noé viennent avant Moïse et à plus forte raison avant Jésus. En effet, l'existence d'un niveau, disons, du créé antérieur à celui du rapport à Dieu permet que l'on puisse dire, avec Descartes, nous sommes hommes avant d'être chrétiens. Donc il y a, c'est dans une œuvre tout à fait en marge, mais donc il y a un niveau auquel on peut s'adresser à l'homme en tant que tel avant de s'adresser à lui en tant que chrétien ou en tant que juif. Je n'ai pas dit en tant que musulman, puisque c'est une particularité de l'islam, justement, de penser que l'alliance est antérieure à la création. C'est la fameuse scène qui est racontée dans le verset 172 de la 7e sourate, comme chacun sait, dont on peut tirer que nous sommes musulmans avant que d'être hommes, puisque nous le sommes avant que d'être créés. Je me demande s'il n'y a pas dans cette idée de la création, de quoi faire entrer philosophiquement la notion de nature, la notion philosophique de nature, la notion même qui est constitutive de la philosophie, la notion de nature dans la réflexion sur Dieu, ce qu'on appelle la théologie, et s'il n'y a pas aussi de quoi concevoir la possibilité d'un terrain commun pour le croyant et l'incroyant. Merci.
Merci. Jean-Claude Casanova.
Merci, Madame la Présidente. Ma question est de simple curiosité par rapport à votre interprétation du livre de Carl Schmitt. Mes souvenirs sont lointains, mais l'impression que j'avais est que Carl Schmitt veut tout simplement dire qu'on ne peut pas comprendre la politique moderne sans remonter à la théologie, parce que la distinction entre la personne et le citoyen, entre l'État, entre le temporel et le spirituel, etc., viennent de la théologie. Et on le voit bien, c'est la question centrale chez Machiavel, chez Hobbes et chez Rousseau. Quand le citoyen, on est à la fois chrétien et citoyen, question que se posait pas Cicéron, Aristote ou Platon, où il y avait une unité de la politique, il y avait le particulier, l'universel, la politique, c'était beaucoup plus simple. Dans la philosophie moderne, c'est beaucoup plus compliqué à cause du christianisme, si vous voulez, qui introduit des dualités qui n'existaient pas avant lui. Et donc, je ne pense pas que Carl Schmitt ait voulu faire une théologie politique. Il a tout simplement voulu dire on ne comprend la politique que si on remonte à la théologie.
Merci. Bernard Bourgeois.
Merci, Madame le Président. Je voulais vous poser deux questions. Vous avez proclamé la fin, de fait, de la distinction classique, si l'on peut dire, du privé et du public. Je sais que, de plus en plus, on tend à considérer que le fait est juge du droit, que ce qui est signifie ce qui doit être. Mais ça n'est pas une raison, parce que une démarche dépérit, qu'elle est absolument à condamner. Et je pense qu'il faut quand même considérer que l'effort peut parfois consister à aller contre les faits, dans la mesure où on pense qu'il s'agit d'une dimension superficielle de ce qui est et qu'on peut essayer de remettre en vigueur ce qui apparemment n'est plus. Deuxième remarque et deuxième question. La distinction du privé et du public, je crois, même dans le cadre de la réflexion laïque, ne concernait pas le contenu, comme si c'est la religion elle-même qui était privée, ou qui devait être privée, et l'État qui devait être public. La distinction, c'est celle du choix, de l'articulation du privé et du public. Il y a un choix politique. Je laisse de côté, d'ailleurs, me semble-t-il, l'assimilation du public et du politique, parce que le public et le politique ne sont absolument pas la même chose. Et je le dis en pensant en particulier au remède qu'Habermas, entre autres, propose actuellement, comme si le public, par lui-même, pouvait revêtir un sens proprement politique. Je laisse de côté cette problématique. Ce qui était distingué, et je crois que ça peut être encore distinguable, c'est le choix politique d'une articulation de la religion et de la politique et un choix religieux entre, pour ce qui est de l'articulation entre ces deux domaines. Et alors, le problème serait, si vous voulez, un peu plus complexe. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de concilier en soi-même un choix politique de l'articulation de la religion et de la politique et un choix religieux de l'articulation de ces deux domaines? Est-ce qu'il ne faut pas complexifier la chose, parce qu'on peut bien considérer, d'ailleurs, les laïcs n'interdisaient pas toute expression publique de la religion, mais seulement celle qui était incompatible avec un certain exercice, une certaine pratique de la vie politique, et plus précisément républicaine. Vous voyez ? Merci.
Merci. Jacques de la Rosière.
Merci, Madame la Présidente. Juste une réflexion. Le vieux schéma que vous avez justement, à juste titre, contredit, selon lequel la religion est une affaire personnelle, chacun poursuit comme il peut sa quête de la vérité, voire du bonheur humain par la mystique ou l'action. Et d'un autre côté, l'État, qui serait l'incarnation du collectif, ce schéma ne me paraît pas valable parce que, en réalité, si on regarde la théologie chrétienne, ce n'est pas une théologie de la recherche individuelle d'un bonheur ou d'une vérité. En réalité, c'est beaucoup plus exigeant, puisque c'est à la fois une foi totale, celle de la révélation, et en même temps un engagement collectif à travers la médiation de l'Église. Donc c'est pas aussi simple. Et évidemment, cette modification, si je puis dire, du schéma ou du préjugé sur la religion complique le sujet que vous avez, à mon avis, excellemment traité. Parce que l'État, ce n'est en réalité que la manifestation, qu'elle soit démocratique ou qu'elle soit dictatoriale ou totalitaire, ce n'est que la manifestation de la nécessité de prendre des décisions. C'est un lieu de décision sur cette terre, à un moment déterminé. Et
Et la religion, quand on y pense, c'est tout à fait différent. Le pouvoir n'est pas de ce monde. Et c'est une vue totale, englobante, à laquelle, si on adhère, on est à 10 000 lieues de la notion de l'organisation collective. Et donc, la question que je me pose, et c'est un peu naïf peut-être de la poser après un exposé aussi savant, mais moi je me demande si cette notion de théologie politique dont vous avez parlé, si je ne me range pas du côté de M. Ménard, parce que je crois que c'est l'eau et le feu, c'est si on croit, et je m'adresse à un homme d'Église, mais si l'on croit que l'intégralité du sens du monde s'est contenue dans la foi et la révélation, je ne vois pas comment on peut jeter des ponts vers le politique. Et je me demande si il ne faut pas continuer à vivre avec cette contradiction qui, en fait, n'en est pas une, parce que ce sont deux ordres totalement différents. Voilà, je m'excuse de cette intervention.
Merci beaucoup. Avant de vous laisser la parole, je me permets juste une dernière petite question à propos de l'interprétation théologico-politique de la modernité séculière. Est-ce que vous pensez que tout ce qui est ces questions de post-humanisme, d'université de la singularité, c'est-à-dire au fond l'immortalité très proche, paraît-il, de l'homme, est-ce que c'est une manière d'essayer de réaliser une bonne fois pour toutes l'immortalité promise par le christianisme ? Voilà, je crois que vous avez à peu près une demi-heure pour répondre à toutes ces questions dans l'ordre qui vous a.
Merci beaucoup pour toutes vos questions extrêmement riches et stimulantes pour moi. Je suis tenté de commencer par votre question, finalement. On va remonter. Oui, c'est. Je pense que votre remarque est pertinente. N'est-ce pas une immortalité de remplacement, en quelque sorte. Et donc, si c'est une immortalité de remplacement, ce que j'ai tendance à croire, après ça, je ne prétends pas du tout être le spécialiste de ces. Je m'y suis intéressé un peu, mais c'est un vaste sujet en lui-même, qu'est le transhumanisme. Si tel est le cas, on peut se demander si effectivement il n'y a pas derrière cette recherche un défi de fait théologique. C'est-à-dire, c'est une question de théologie à l'envers, en quelque sorte.
Oui, parce que l'immortalité n'est pas l'éternité. Donc.
Voilà, ouais. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'immortalité qui est en recherchée n'est pas en réalité la réponse chrétienne c'est la résurrection, c'est la vie éternelle, c'est bon. Qui n'est pas que chrétienne d'ailleurs. Et là, il y a de fait, à mon avis, certainement aussi matière à articuler. Alors, on va venir aux autres questions, chemin faisant. Le défi théologique que ces questions soulèvent et leur articulation à des questions politiques. Parce que, je m'excuse, mais la théologie, si elle est purement semblant dans le ciel des idées, elle ne répond à rien. Alors, au fond, tout naturellement, je rejoins un peu votre question. Il y a indéniablement une hétérogénéité. Sinon, et c'était aussi l'autre point soulevé d'ailleurs par M. Casanova, je l'ai dit, même d'autres d'entre vous l'ont dit, théologie politique est un trait d'union dangereux, c'est sûr. Ou paradoxal, en tout cas risqué. Théologie du politique, c'est réinstaurer de l'altérité. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est clair. On ne peut pas mélanger les deux réalités. Mais une séparation totale signifierait qu'une religion, en l'occurrence le christianisme, n'aurait absolument rien à dire et à se prononcer. Et son corpus théologique serait insignifiant. il ne se projetterait finalement que dans des réalités purement et simplement métahistoriques, ce qui risquerait d'ailleurs de donner raison d'ailleurs à une position athée. Au fond, c'est ce que Feuerbach, par un athéisme très, très simpliste, disait au XIXe siècle. Au fond, qu'est-ce que c'est que la théologie? C'est la projection dans le ciel de ce que l'homme attend sur terre. Donc, retournons la théologie en anthropologie, et là, le problème est réglé. Alors, bien sûr, on sait très bien depuis Feuerbach que le problème, en fait, n'est pas réglé, c'est une chimère. Et qu'on n'aurait pas pu penser, dans les années 1840, une théologie du politique. C'était rigoureusement impossible, on n'était pas du tout dans cet univers. Mais aujourd'hui, avec la distance qui est la nôtre, après les échecs multiples, notamment du communisme et de l'athéisme pratique qui ne s'est jamais réalisé, comme le pensait Marx, la question se pose à nouveau, frère. Et de cette hétérogénéité. Et là que j'assume totalement, mais à condition que l'hétérogénéité, qui est une altérité, bien sûr, ne se confonde pas avec les réalités de ce monde ici-bas. L'État, il a décidé, c'est pas la tâche de l'Église, on est bien d'accord. L'insignifiance politique du religieux est, à mon sens, dangereuse aussi. Il n'aura rien à dire, donc taisez-vous. Alors, c'est cela le sens de ma recherche, si vous voulez. Alors, qui implique à la fois... bien sûr, d'avoir une certaine interprétation de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, si on peut le dire, pour comprendre un peu. Quelle est l'histoire, la relation entre du christianisme et de ses différents modèles avec le politique. Et ça nous éclaire, j'irais même, par rapport à la position de Schmitt au XXe siècle, entre ce qu'il en dit, ce qu'il lui fait dire, etc. Bon. Et puis, il y a aujourd'hui, il y a les défis d'aujourd'hui auxquels il faut répondre. C'est ma conviction, en tout cas, et qu'il faut tenter d'argumenter, bien sûr. Le congédier, ou en tout cas en France, au moins, parce que là, il faut pas généraliser les situations et les expériences historiques et politiques. La religion générale, je ne parle pas que du christianisme ici. Hors du champ public, je ne suis pas sûr que ce soit devenu une bonne opération, tout simplement. Je ne voudrais surtout pas éluder votre question qui est absolument fondamentale. Une fois une analyse à la fois d'histoire des idées et une analyse philosophique faite, quid pour aujourd'hui, comment des croyants, en effet, peuvent être des citoyens à part entière? Je retournerai un peu la proposition. Comment des croyants peuvent être des citoyens à part entière? Et ça n'a rien de discriminant. C'est-à-dire que, évidemment, que le non-croyant est autant citoyen que le croyant. Le problème n'est pas d'écrire des discriminations. C'est-à-dire qu'il y a, en quelque sorte, il y a un monde commun, une réalité commune. C'est l'appartenance à une communauté politique commune, de l'intérieur de laquelle chacun et chacune sont des citoyens et des citoyennes. Mais chacun l'est aussi irrigué par rapport à ses propres... En tout cas, pour ceux qui ont une tradition spirituelle, ses propres traditions spirituelles. Est-ce que ces traditions spirituelles, en l'occurrence celles du christianisme, a quelque chose à dire sur la manière d'être civique? C'est ça, la question que je pose. Est-ce que l'espérance d'un monde au-delà est compatible avec les exigences de l'ici-bas. Et donc, on n'est pas dans une hétérogénéité absolument totale, qui faisait dire, d'ailleurs, à bien des critiques du christianisme, qu'au fond, cette religion était peuplée de gens déloyaux. Les Romains le disaient déjà, c'est pas nouveau. Et Rousseau même le dit encore dans le Contrat social. C'est une religion d'esclaves. Et puis, on pourrait allonger la liste, si vous voulez. Et alors, si tel est le cas, si tous ces critiques ont raison, ça veut dire... c'est inquiétant, ça veut dire quoi? Le chrétien est un citoyen, en fait, il est un citoyen au rabais. Ça devient dangereux. Alors, ça ne pas. Oui, bien que. D'où d'ailleurs ma référence à Hannah Arendt qui me paraît intéressante, parce qu'Hannah Arendt n'est pas taxée d'apologétique chrétienne, c'est le moins qu'on puisse dire. L'heure est venue, me semble-t-il, de se reposer ces questions radicales. Voilà, si vous voulez, la problématique qui est la mienne est dans le champ de la tradition spirituelle qui est la mienne et qui ensuite intéresse d'autres traditions spirituelles, évidemment. Alors, théologie du politique, parce qu'effectivement, je crois qu'il faut, une fois encore, j'insiste beaucoup là-dessus, se situer sur un terrain aussi rigoureux que possible qui est celui de l'altérité. Le lien, je n'aurais pas aussi éludé la question de... Bien, après tout, on pourrait penser que lorsque j'affirme que le christianisme a des apparentements avec la démocratie. D'ailleurs, écoutez, vous êtes bien gentil, mais je vous crois, si vous voulez, à la rigueur, mais on a pu en dire autant au temps de la monarchie. Et là, vous posez une vraie question. Vous savez que un auteur, un théologien comme Peterson, d'ailleurs, lui-même l'avait fait remarquer, le christianisme, à un moment donné de son histoire et de manière suffisamment longue, n'a pas été sans faire régresser, il faut le reconnaître, ses propres conceptions. C'est-à-dire que d'une vue théologique très structurée au plan doctrinal trinitaire, donc très orthodoxe, il a pu, sur un plan beaucoup plus pratique, réhabiliter un schéma monarchianiste ou monarchiste, on pourrait dire. Donc le principe de l'un. Et donc une théologie politique, c'est-à-dire créant des analogies ou des homologies de structure entre le champ politique et le champ théologique. Je pense d'ailleurs à cet égard à un article du père Congar qui date de 1981 dans la Nouvelle Revue Théologique, reprenant la thèse de Peterson et disant effectivement il y a des retours, on peut dire monarchiques, pré-trinitaires dans le christianisme. Alors c'est une question délicate. Et donc le lien entre monarchie au sens de dans son épure, hein, pas monarchie forcément au sens, parce qu'il y a des types de monarchie en plus, hein, mais dans son épure unitaire, je dirais. Hein.
Je n'ai pas du tout approuvé cette interprétation.
Comment ? Je n'ai pas du tout. Mais j'ai bien compris. Je se comprends bien, bien sûr. En revanche, quand je dis qu'il y a un lien étonnamment intéressant entre démocratie et christianisme, et je pense que je rejoins la perspective de Tocqueville, mais là, Lucien Jaume pourrait dire des choses sur ce plan, évidemment. C'est parce que le christianisme, exhibe ses propres textes primitifs, est du côté de la pluralité. Hannah Arendt, d'ailleurs, le disait très justement, la notion de fraternité appelle à la pluralité. Si vous allez lire, par exemple, la première épître aux Corinthiens, il n'y a pas d'unité de l'institution sans pluralité. Il y a toujours une dialectique de l'un et du pluriel. Et il y a un rapport au temps et à l'espace, parce que de fait, c'est une religion qui s'inscrit dans l'histoire et qui s'est inscrite aussi dans des espaces. Et je crois qu'il n'y a pas en effet de démocratie viable sans l'appartenance à une territorialité et sans aussi l'appartenance à une communauté historique ou une communauté dans l'histoire. Ce qui est en soi déjà une vaste question, même indépendamment d'ailleurs de l'approche, une approche théologico-politique. Mais une démocratie, autrement dit, pour employer une expression qui a cours de nos jours fréquemment, ne peut pas fonctionner hors sol et hors temps. Et donc, le christianisme peut-être lui apporter des choses dans ce sens-là. Je m'excuserai si je n'ai pas répondu avec en totalité à vos questions. D'ailleurs, je pense que c'est surtout le cas pour votre question, monsieur Bourgeois. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que le fait n'impose pas forcément son diktat au droit. Ça, c'est une position qui a tendance à être majorée de nos jours par un sociologisme, je dirais, finalement assez primaire. Et je ne vois pas d'ailleurs au nom de quoi forcément le fait imposerait sa règle du jeu au droit. Parfaitement, en totale consonance avec ce que vous venez de dire. Alors en même temps, on ne peut pas non plus ne pas voir les évolutions se produire. J'imagine bien que c'est votre position, on ne peut pas aller à contre-courant non plus, purement et simplement, d'évolution. Et je crois qu'on est quand même dans un contexte où les statuts de privé et de public sont des notions qui ont considérablement évolué, et sans confondre le public avec le politique, comme vous le disiez tout à l'heure, d'ailleurs. Et à ce titre-là, je crois que cette évolution est intéressante, parce que les religions, et là, ça ne concerne pas simplement que le christianisme, peut en effet trouver une juste place dans cette sphère publique, au titre de ce qu'elles sont comme institutions, j'allais dire, privées, et le privé ne se confondant pas inversement, si le public ne se confond pas avec le politique, inversement, le privé ne se confond pas avec l'intime, à titre privé ou à titre d'acteur de la société civile, il me semble que là, en effet, on est devant des reconfigurations tout à fait possibles et intéressantes du rapport entre religion et société, et religion et politique. C'est, au fond, c'est la Par une autre entrée, c'est au fond la thèse que je défends, dans ce sens-là. Mais faut-il encore pas simplement s'en tenir à des observations empiriques, mais essayer du côté des traditions religieuses respectives, et pour ceux qui sont impliqués, c'est mon cas pour le christianisme, de développer des instruments théoriques de réflexion qui permettent de réfléchir à cette réarticulation entre ces deux champs.
Merci beaucoup. Si je peux, est-ce que je peux me permettre d'ajouter, pour répondre à la question très intéressante que posait M. Ménard, et tout à fait raison de dire que la monarchie a été défendue par l'Église comme si c'était la seule institution possible, et aujourd'hui, on fait la même chose avec la démocratie. Mais parce que, comme vous le dites, rien n'est figé. Nous sommes dans l'histoire. Au fond, est-ce que nous ne sommes pas dans le cadre d'une promesse qui s'accomplit ? Est-ce qu'on pourrait pas dire ça comme ça ? Dans le De Regno de Thomas d'Aquin, qui défend clairement la monarchie, nous avons l'idée déjà de la maturité des citoyens, déjà du citoyen mature. Il y a déjà cette idée qui commence, et c'est le début du principe de subsidiarité, déjà chez Aristote. Mais donc il y a quelque chose qui naît, qui se développe et qui mûrit. Est-ce qu'on pourrait pas le dire comme ça ? Parce que c'était très intéressant ce que vous avez dit. Écoutez, merci beaucoup de cette belle conférence.
Merci. Merci aussi à vous aussi de m'avoir accueilli dans votre enceinte académique. Merci beaucoup.